Bienvenue sur le podcast de Moodstep, pétri en Bretagne par moi-même, Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Et aujourd'hui, je reçois Cyril de Souza Cardozo. Nous allons parler d'innovation commando. C'est parti. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Écoute, je suis super heureuse de te recevoir pour ce podcast. On va parler d'innovation aujourd'hui et notamment d'un concept que tu as développé en partenariat, je crois, avec ton associé, qui est l'innovation commando, c'est ça ?
Exactement, avec Jean-Christophe Messina, l'innovation commando. Comment rendre une équipe efficace et performante pour produire de l'innovation ? Innovation à entendre au sens large, c'est-à-dire pas uniquement technologique, elle peut être aussi commerciale, organisationnelle, etc.
Managériale, puisqu'on va parler de management.
Tout à fait.
Ça fonctionne ? Ah, super.
Exactement.
Juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, avec plaisir. Alors, Cyril de Souza Cardozo. Alors moi, je viens de l'univers de la gestion de projets informatiques dans les systèmes d'information. J'ai eu un parcours qui a couplé à la fois un parcours dans l'univers de la fonction publique et dans l'univers des startups. Et c'est cette jonction de ces deux univers qui a produit mon goût pour les équipes et qui m'a amené à produire ce concept d'innovation commando que j'ai vraiment formalisé à la rencontre de Jean-Christophe Messina, qui fut lui un DRH de grandes organisations, et donc qui a apporté lui une vision plus humaine du rapport aux équipes et aux personnes, et moi une vision un peu plus technique, organisationnelle de l'équipe, et surtout une vision de ce qu'était la créativité et l'innovation d'un point de vue humain et relationnel.
Ouais, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'innovation, de la créativité, ça reste un sujet très large. En plus, tu viens de dire, hein, vous touchez à plein de sujets. Peut-être, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est l'innovation commando, en quoi ça consiste ?
Exactement. Alors, l'innovation commando, c'est une approche de la créativité de l'innovation du point de vue des équipes. C'est-à-dire que nous, ce que l'on développe comme idée, c'est que l'unité capable de produire de l'innovation est plus l'équipe que l'individu. On pense que le relationnel est primordial pour produire de l'innovation. Et donc, l'innovation commando, c'est en gros comment une équipe devrait s'organiser, selon quels principes, pour se mettre en capacité de produire de l'innovation. Et ce, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son environnement.
Mais ça veut dire que si... donc là, tu parles d'un système, parce que si tu parles d'innovation, donc travailler le relationnel, c'est un travail profond et difficile, j'ai envie de dire, parfois.
Exactement, exactement.
Mais est-ce qu'il y a une étape quand même où on travaille purement l'innovation ou des sujets qui concernent l'entreprise en particulier? Cette entreprise-là veut développer son innovation sur tel sujet, ou vous ne faites que travailler le relationnel de l'équipe et le système?
Alors, on travaille en deux temps. D'abord, la première, c'est déjà fournir une véritable vision de ce qu'est la créativité et l'innovation. Pour nous, c'est simple, c'est avant tout un jeu de Lego. Pour nous, la créativité, l'innovation, c'est avant tout savoir associer des briques qui existent dans notre environnement pour produire de l'innovation.
Par exemple, tu peux, juste pour que je comprenne ce que sont ces briques, qu'est-ce que tu
Bien
mets
sûr.
Dans ce... C'est
Alors,
quoi
par
ces
exemple,
briques?
Par exemple, j'ai donné une conférence récemment où je devais justement donner des exemples. Et par exemple, si je prends un moteur à vapeur et un char et que j'associe les deux, je crée la première automobile, comme l'a fait Joseph Cuneo en 1769. Si, par exemple, j'associe des skis à une moto, je vais inventer la motoneige. D'accord ? Donc, en gros, l'innovation consiste uniquement, finalement, à jouer avec des Legos, ce qu'on appelle en fait les paradigmes. C'est-à-dire que chaque objet est constitué de briques élémentaires. Et une fois qu'on a identifié ces briques, on peut jouer avec ces briques, c'est-à-dire soit ajouter des briques, remplacer une des briques ou supprimer une des briques. Et c'est notamment ce que fait très bien Dyson, puisque Dyson a identifié, par exemple, dans l'aspirateur le sac, donc qui contenait la poussière et qui
représentait un problème. Ils ont enlevé la brique sac, tu veux dire ?
Exactement, ils ont supprimé cette brique-là. Et ils ont refait la même chose plus tard avec le ventilateur sans pales. En fait, la créativité et l'innovation, c'est uniquement identifier en fait, les briques qui composent un sujet, et ensuite jouer avec ces briques, en les supprimant, les modifiant, en ajoutant d'autres briques. Donc ça, c'est la première chose, c'est donner une vision de la créativité et de l'innovation très inclusive, pour dire...
Juste pour finir sur ce sujet, avant que tu passes à l'étape
Bien
suivante,
sûr.
tu parles d'un jeu de Lego et là tu as pris des exemples extrêmement concrets d'objets. Est-ce que ça marche avec les concepts? Comment on décompose un concept par exemple?
Oui, alors là, c'est tout l'art c'est tout l'art justement après des processus créatifs et innovants, puisque bien entendu, notre approche, parce que ça fonctionne là dans les objets, mais ça fonctionne aussi dans les services, dans l'organisation, c'est systématiquement avoir une approche de ces briques élémentaires, de ces paradigmes qui composent un sujet. Et en effet, quand je place des personnes face à un sujet, chacun va avoir sa propre approche. L'objectif, collectivement, souvent, c'est face à un sujet sur lequel on veut innover, c'est se réunir et se dire, OK, quels sont les éléments qui composent et définissent en fait l'objet ou le sujet sur lequel on veut travailler? Il peut être de l'ordre du concept pur ou un objet ou un service. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces éléments, on peut alors jouer avec. Et l'un des jeux qui fonctionne très bien, c'est l'inversion des paradigmes. C'est un jeu qui s'appelle Et si le monde était à l'envers? En gros, on demande aux personnes d'écrire tous leurs paradigmes qui définissent un sujet, par exemple la voiture. Dire que la voiture, par exemple, peut à un chauffeur, quatre roues, etc. Et lorsqu'on demande aux personnes d'inverser les paradigmes, pour provoquer l'esprit, justement, elles se retrouvent donc du coup avec des paradigmes qui disent la voiture n'a pas de chauffeur. Et donc en partant de ce paradigme un peu provoquant, alors on peut essayer d'inventer, et donc on peut par exemple là inventer la voiture sans chauffeur.
Et sans roue.
Et sans roue, exactement, la voiture volante, etc. Donc on peut provoquer l'esprit, puisque l'objectif tout le temps, dans ces jeux de créativité, d'innovation, c'est de sortir des sentiers battus et d'essayer de sortir de nos réflexes cognitifs pour provoquer par le hasard ou justement la provocation des associations qui ne nous semblaient pas naturelles. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est d'assembler ensemble des briques qui semblent pourtant éloignées.
Tu as parlé donc du relationnel. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement concret, sur
Bien
des
sûr.
exercices d'innovation, de changer de regard sur les choses. Comment, quand vous intervenez en entreprise, comment vous mappez le relationnel? Je ne sais pas comment, les mots ne me viennent pas bien. Comment,
Comment, oui.
vous travaillez sur le relationnel des groupes, puisque ça a l'air d'être primordial dans l'émergence de l'innovation?
Exactement, exactement. Alors, on n'est pas là pour. On ne map pas véritablement le relationnel d'une équipe. On l'approche tout le temps de manière unique. On estime que toute équipe est unique dans ce relationnel. D'ailleurs, on porte nous une certitude qui est qu'il n'existe pas de méthode magique qui s'applique à tout le monde. On a vu trop d'entreprises qui veulent systématiquement appliquer les méthodes de Google pour produire de l'innovation, sauf que ce qui marche chez Google ne fonctionne pas ailleurs. En fait, chaque équipe doit apprendre à s'auto-organiser, faire émerger sa propre méthode de travail qui est très dépendante des individus qui la constituent. Par contre, quand nous, on approche une équipe, en gros, on a sept grandes idées qui nous permettent en tout cas de mettre en mouvement l'équipe justement vers la découverte de sa propre méthode d'organisation. Ça vient, nous, de ce qu'on appelle la philosophie agile, hein, les méthodes agiles dans l'univers informatique.
J'ai fait une émission de podcast sur les méthodes agiles,
Ah bah très bien,
pour
donc
ceux que
du
ça
coup, je...
intéresse.
ah bah, super, donc je pense que du coup, vous avez pu aborder notamment donc les notions un peu de vision et surtout de rétrospective, comment à un moment donné on fait pour s'interroger ensemble sur comment on s'organise. Trop souvent, on est pris par les sujets de fond, c'est-à-dire sur ce qu'on fait, ce qu'on produit, et pas suffisamment sur comment on est organisé autour de ça. Et en gros, nos sept principes disent que, un, le premier, il faut d'abord déjà que l'équipe elle soit connectée à une vision commune, partager une vision et régulièrement y revenir pour savoir vers quoi on va, ça c'est très important. C'est source de motivation notamment, parce que notre vision elle doit s'insérer aussi dans cette rôle, cette place qu'on souhaite jouer dans le monde qui nous entoure. Ça c'est important en termes de motivation au sein d'une équipe. Les rituels, très important, on parlait de la rétrospective à l'instant, des rituels qui peuvent aussi nous reconnecter à la vision, mais aussi des rituels plus conviviaux. Ça, c'est très important pour construire aussi des relations au sein d'une équipe, à la fois professionnelle, mais aussi en dehors. Le principe d'économie du temps, savoir au sein d'une équipe régulièrement s'interroger justement sur la manière de nous organiser pour faire gagner du temps à tout le monde, c'est-à-dire pas automatiser certaines tâches répétitives. Identifier les endroits où on perd du temps collectivement, ça c'est très important. Le principe d'excellence, Alors là, le principe d'excellence pour nous, il a deux dimensions. Il est à la fois interne, c'est-à-dire que l'environnement de l'équipe, l'environnement relationnel, mais aussi physique, doit être fait d'excellence. Les gens doivent se sentir bien au sein de l'équipe, à la fois du point de vue relationnel, mais aussi physique, mais aussi externe, c'est-à-dire que ce qu'ils produisent, toujours en rapport avec leur vision, doit se faire dans un objectif d'excellence. On cherche à produire de l'excellence. La motivation d'une équipe, la relation d'une équipe, en fait, est peu maintenue par l'objectif de produire, par exemple, des objets ou des services de basse qualité. Un principe de simplicité, on le sait tous, quand on produit de l'innovation et au fur et à mesure qu'on travaille sur un produit, un service, un process, on a toujours tendance un petit peu à le complexifier. Or, toujours en lien avec le principe d'économie du temps, il faut régulièrement s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'on peut simplifier dans notre produit. Un principe de diversité, ça c'est important. Une même équipe qui aurait uniquement les mêmes profils n'est pas source d'innovation, tout simplement parce que ça me ramène à la vision un peu de la créativité et l'innovation selon un jeu de Lego. Si on a tous les mêmes Lego, parce qu'on a les mêmes expériences, alors on va être capable de produire moins d'associations. Si on a justement des personnes avec des profils plus divers, alors on va être capable d'apporter sur la table plus de Lego différents et donc plus d'associations possibles. Et enfin, un dernier, et ça c'est important, un principe de proximité. Nous, on accompagne trop d'équipes qui travaillent à distance. Alors oui, certes, on est dans un environnement où on a énormément d'outils à notre disposition pour communiquer. Cependant, la meilleure des communications reste la communication en face à face. D'un point de vue humain, il n'y a pas plus efficace. Ça amène notamment la capacité à identifier les signaux faibles, c'est-à-dire
Ben oui.
ces choses qui sont très importantes pour comprendre la psychologie humaine et comprendre aussi voilà, le partage d'idées, parce qu'il y a ce qui est professionnel, mais aussi ce qui l'entoure. Et ça, c'est très important pour une équipe.
Et ça va un peu à l'encontre de là où on va avec le télétravail. Donc tu dirais que le télétravail n'est pas
Et
une
pas
bonne
alors, alors.
solution?
Ça serait, alors, pourtant, non, alors, moi, je suis plutôt un fervent défenseur du télétravail, mais comme tout, il me semble qu'il est très important d'équilibrer les choses,
Ouais.
c'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent seuls, et eux, en tout cas, en effet, alors le travail en télétravail est pertinent. Au sein d'une équipe, par contre, avoir des temps de télétravail, très bien, ça améliore aussi le bien-être, ça permet justement de s'oxygéner, de faire les choses autrement. Mais cependant, il va falloir des temps de travail communs et pas uniquement des temps de réunion où à un moment donné, on est juste là pour travailler sur un sujet, mais des temps de vie communs, des temps justement de détente, etc. Parce qu'il est important au sein d'une équipe de développer ce relationnel, ce partage, cette sensibilité à l'écoute de l'autre, à la fois à ses idées, mais aussi à l'ambiance au sein d'une équipe et comprendre à un moment donné si on est vraiment tous dans le même sens, alignés avec conviction ou si à un moment donné, certains ne suivent pas exactement le même cap.
Donc, quand vous intervenez en entreprise, vous regardez ces sept grands principes, vous regardez ce qui existe dans l'entreprise, vous faites un bilan avec les équipes, parce que on parle là de choses vraiment en profondeur. Quand on parle des rituels, quelle diversité il y a dans l'équipe, ce qui peut même impliquer un changement d'équipe, c'est-à-dire amener de la diversité dans une équipe. Comment vous intervenez sur des périodes longues, ou bien ce sont des interventions courtes, commando, j'ai envie de dire.
Exactement. Alors, on va agir un petit peu souvent sur la même manière. Non, on n'est pas du tout pour les interventions longues, parce que nous, notre objectif est l'autonomisation des équipes. Donc, ce que nous allons faire, c'est plutôt intervenir dans le cadre d'animation de séminaires pour amener les individus, les personnes, l'équipe, à s'interroger justement sur ces principes-là. Non pas pour nous leur livrer les recettes, on leur donne des réflexions. Mais toujours en leur disant, voilà, à vous de vous approprier ces concepts, et vous, lorsqu'on vous pose ça, qu'est-ce que ça a fait émerger chez vous? À ce moment-là, les équipes, en utilisant l'intelligence collective, va peut-être identifier des problématiques, des points d'amélioration collective, et surtout des plans d'action associés. Et alors, on va les laisser en autonomie, mettre en œuvre ces plans d'action, et nous allons revenir régulièrement dans le cadre justement de ce qu'on appelait en agilité des rétrospectives, pour faire un point avec eux, pour leur dire, voilà, ok, il y a 3 mois, on s'était vu pour faire un point sur votre fonctionnement d'équipe, vous aviez identifié qu'il y avait des points faibles. Comment êtes-vous par rapport à cela? Notre avantage est que nous sommes des intervenants extérieurs, donc on a une capacité par rapport à eux à libérer la parole. Voilà, c'est notre seul avantage.
quand vous intervenez, que vous revenez pour une rétrospective, vous intervenez sur les 7 principes ou est-ce que vous allez travailler particulièrement la vision et vous êtes missionné pour aider l'équipe à avoir une vision commune ou à la définir et ensuite vous venez pour les rétrospectives pour voir comment cette vision évolue ou à chaque fois je verrai un cadran avec les 7 principes, est-ce que vous intervenez sur les 7 principes systématiquement?
Non, alors nous, on intervient principalement, en effet, sur la vision. Souvent, les séminaires que l'on lance, on travaille sur la mission. Sur les autres principes, c'est plutôt des éléments, en tout cas, de réflexion que l'on donne. Et nous, ce qui est important, on part toujours d'une chose, parce que nous-mêmes, on ne doit pas s'enfermer dans notre propre conception d'innovation commando, qui deviendrait du coup une méthode organisationnelle. Nous, c'est ce qu'on refuse. Plutôt, on part de l'équipe, de son ressenti, en lui posant cette question: comment trouvez-vous que vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez bien? Oui ou non? Et si jamais cette équipe fonctionne bien, en respectant pas exactement tous les principes que nous, auxquels on croit, alors tant mieux. Par contre, qu'on identifie des problématiques au sein des équipes, on sait que souvent les solutions à leurs problématiques se trouvent dans les principes que l'on fournit.
D'accord. Donc comment on se travaille par exemple sur la vision? Comment vous abordez ça et comment vous utilisez l'intelligence collective pour arriver à une vision commune?
Alors, ça c'est important, c'est comment on utilise donc l'intelligence collective? En gros, l'objectif, c'est le prototypage rapide. Le but, c'est comment je vais, de manière un peu physique, en dessinant, en créant, matérialiser ma vision. D'accord? Je pars avec les équipes, souvent, d'abord, d'un temps de constat, d'empathie, c'est-à-dire une compréhension de mon écosystème. Surtout, une compréhension des problèmes auxquels vont devoir répondre soit le produit, le service ou le process que j'ai à créer, à développer avec mon équipe. Je dois d'abord comprendre dans quelle place, où est-ce que je me situe. Ensuite, je détermine, moi, quelles sont, en équipe, les valeurs que j'ai envie de porter. Quelle est cette vision? Comment je veux répondre à cette problématique? Et une fois qu'on a ça, notre but, et justement d'aider les gens souvent par le dessin, souvent par le couplage, le découpage, etc., ce qu'on appelle nous la visualisation collaborative, à représenter leur vision collective. Leur dire, voilà, si notre produit, notre service devait, par exemple, ressembler à une boîte de Corflex, voilà, il serait de cette manière-là, il aurait tel slogan, il aurait telle illustration, il aurait telle composition. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un élément un peu symbolique que l'équipe va ensuite pouvoir garder, par exemple, dans leur bureau. Et à chaque fois que les individus vont passer devant, se remémorer tous les échanges qu'ils ont eus autour de cette vision, en sachant, en se rappelant, voilà, notre vision c'est ça, on veut aller vers ça.
D'accord? Mais attends, je ne comprends pas tout à fait. En fait, donc l'entreprise fait déjà un produit ou produit un service, on se détache de ce produit ou de ce service, on crée un autre produit qui porterait les mêmes valeurs.
Voilà, un artefact. On crée une sorte d'artefact. L'objectif, c'est créer une sorte de, voilà, ça peut être une dessinée, ça peut être un poster. L'idée, c'est de se dire comment on représente, non pas d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans ce qu'on va faire, mais plutôt pourquoi on le fait. C'est vraiment essayer de représenter collectivement notre vision, ce vers quoi on a envie d'aller. D'accord ? On parle souvent de l'exemple de Steve Jobs, qui expliquait à ses équipes qu'ils étaient des pirates qui allaient lutter contre l'enfermement du monde technologique. Le but était de développer une technologie qui allait libérer le monde justement des monopoles. Eh bien, nous allons faire la même chose. Imaginons qu'on serait intervenu chez Steve Jobs. On aurait amené les équipes peut-être à dessiner un poster sur lequel ils se seraient représentés en tant que pirates. L'objectif étant ensuite de placer ce poster dans leur bureau pour que chaque jour, lorsqu'ils passent devant, s'assurer que chacun se connecte à cette vision collective. Le but étant bien entendu régulièrement de pouvoir mettre à jour cette vision, puisque l'équipe avançant, sa vision peut évoluer aussi.
C'est marrant parce que c'est de l'ordre de l'imaginaire, j'ai envie de dire, ou de quelque chose d'impalpable, alors qu'on a l'impression qu'en entreprise, il faut être extrêmement concret sur la cible, j'ai envie de dire. Donc il y a un pouvoir à l'image qui n'est pas directement lié à ce que l'on fait.
Exactement. Nous, ce qu'on appelle, c'est le management sensoriel. En gros, on pense que, comme on le sait, hein, chaque individu a un peu son mode privilégié pour voilà, capter de l'information. Ça peut être visuel, ça peut être voilà, kinesthésique, ça peut être auditif. Et notre objectif va toujours être d'inclure un maximum de personnes dans la circulation de l'information. Et on pense que le point central de l'information, le point de départ, est cette vision, c'est-à-dire dire pourquoi je suis en train collectivement de travailler. Bien sûr, là tu le dis et tu le soulignes à juste titre, il est très important de rentrer dans du concret, très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini ma vision, ce vers quoi j'ai envie d'aller, alors nous, on va se concentrer sur le plan de route qui va permettre de conduire vers ça, mais surtout, surtout, sur le premier pas. Quel est mon premier pas? Ça, c'est primordial. C'est-à-dire, on accepte, et c'est vraiment la philosophie agile, hein, c'est de se dire que, bon, la route entre ce point-là, cette vision que l'on vise, et maintenant, la route, elle est un peu sinueuse, on ne sait pas, peut-être pas exactement quelle va être. Par contre, si je sais vers où j'ai envie d'aller et que je me concentre sur mon premier pas, alors, je commence à créer une dynamique d'équipe qui me permet d'avancer dans le bon sens.
Oui, puis
Toujours en
tu vas faire les rétrospectifs au fur et à mesure à différents points pour voir si tu es toujours aligné avec cette vision ou si elle a changé, c'est ça?
Exactement. Et ça, c'est très important. En agilité, on perd souvent cette vision. On entend trop souvent des équipes qui nous disent, bah voilà, maintenant, ça y est, on travaille de manière itérative. Mais au fond, et après, on se retrouve avec des personnes qui nous disent, mais on ne sait plus trop vraiment pourquoi on fait ça, en fait. Parce qu'en fait, les gens ne reviennent pas à leur vision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut revenir régulièrement à la vision et se dire, OK, est-ce qu'entre là où je me trouve aujourd'hui et ma vision, est-ce que je continue? Si ma vision, elle est plus bonne, alors je la redéfinis. Mais là encore, c'est très important de partager collectivement. Car il faut se méfier toujours des évidences, de se dire, bah oui, mais c'est évident que la vision, elle a changé. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas partagé au sein de l'équipe. C'est important de partager et savoir le faire en équipe. C'est très primordial.
Justement, tu parles de vision partagée. Est-ce que dans ton expérience, il y a des schismes de vision au sein des équipes et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment on trouve une vision commune?
Ouais, alors, on va avoir souvent des schismes de vision au sein d'une équipe, souvent quand on va avoir des générations différentes réunies au sein de l'équipe.
Ah,
Ça, c'est
intéressant.
intéressant parce que, en effet, on va avoir des anciens qui ont une certaine vision construite sur l'expérience et les jeunes qui vont arriver aussi avec leur vision, voilà, parfois certaines idées reçues, leurs a priori, mais aussi, bah, voilà, leur connaissance d'un monde peut-être nouveau aussi qui est en train d'émerger. Nous, on est persuadé que l'intergénérationnel est source d'innovation et de créativité pour les mêmes raisons qui permettent de porter voilà, le principe de diversité. Cependant, lorsqu'on a justement ces visions différentes, il est très important d'essayer de dialoguer au sein de l'équipe pour justement construire notre vision. Et là, il faut sortir très souvent des moyens, c'est-à-dire ne plus s'enfermer justement sur notre produit, par exemple, lorsque Steve Jobs explique à son équipe qu'on est là pour libérer le monde. Il ne s'enferme pas sur la manière dont on va être construit le Mac. Il explique à son équipe qu'à un moment donné, il faut répondre, produire un produit qui va en fait s'opposer à justement une hégémonie technologique. Ça, c'est une vision. On n'a pas besoin de dire comment vont être faites les choses. Et là, dans ces problématiques, par exemple, intergénérationnelles dans lesquelles il y a ce genre de schisme, l'objectif est de les ramener, de leur dire, OK, mais collectivement, quelle est votre vision? Qu'est-ce que ce vers quoi vous voulez aller? Et là, nous, on arrive. Alors, en général, les gens se trompent sur deux choses. C'est qu'il ne faut pas confondre cette vision collective et en même temps les chemins individuels. Et ça, c'est un grand. Là, c'est tout un autre vaste sujet RH, c'est-à-dire entre une
Et même
génération
philosophique, je dirais.
presque philosophique, exactement, entre une génération en entreprise qui, elle, a vu sa carrière se faire au sein d'une même organisation et aujourd'hui une jeune génération qui dit. Moi, je viens dans votre entreprise si vous êtes capable de me dire en quoi ça va apporter à mon propre parcours. Et là, l'équipe doit accepter tout simplement qu'à un moment donné, une équipe, c'est un groupe d'individus qui, à un moment donné, se réunit pour construire une vision commune, avancer ensemble. Certains vont avoir un temps individuel plus ou moins long au sein de cette équipe et accepter qu'à un moment donné, il y a de la circulation. Et d'ailleurs, tant mieux, ça évite la sclérose.
Super, on est arrivé au bout de notre temps imparti. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'essentiel dont on n'aurait pas parlé?
Non, je crois que ouais, s'il y avait un terme qui est important et que peut-être ne recouvre pas l'innovation commando, c'est marrant parce que on en parlait un peu en off, hein, ce terme de commando qui peut parfois être associé à des dimensions militaires, c'est d'ailleurs un écho particulier aujourd'hui. Mais c'est important de le comprendre qu'aujourd'hui, c'est véritablement le mode dans lequel il faut que l'on progresse dans un monde qui est de plus en plus hasardeux, de plus en plus complexe. L'innovation commando, c'est cette idée comment on avance de manière serrée. pour progresser et identifier ces sources d'innovation qui font progresser l'humanité. Et au centre de ce déplacement-là se trouvera un art qui est l'art de la relation.
J'aime beaucoup la façon dont tu parles. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir. Tu as fait un TEDx il y a quelques années maintenant. Hein.
Exactement,
Ça doit faire 2 ans.
il y a 3 ans même, 3 ans,
3 ans même.
déjà 3 ans.
Ok. C'est bien échangé d'ailleurs. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir ta capacité à transmettre ces choses-là, qui est
Merci à toi.
admirable.
Merci.
Et je te propose de passer au questionnaire, donc, qui est commun à toutes les interviews.
Oui.
Et nous allons commencer avec la toute première question qui est: quelle est ta meilleure erreur, la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées?
Alors, ma meilleure erreur, c'est dans mon parcours de start-upper. Ma meilleure erreur, c'est d'avoir lancé un projet sans business model, sans même perspective de business model, pensant comme beaucoup de start-upers qu'une fois qu'on aurait une communauté, on trouverait un business model associé. Ça m'a permis de comprendre clairement que, notamment en entreprise, il est très important de tout de suite mettre au cœur des choses, et ce n'est pas antinomique avec d'ailleurs la relation humaine, avec la possibilité d'avoir un véritable impact positif sur le monde, mais justement le nerf de la guerre, hein, qui est l'argent. Gagner de l'argent, faire en sorte que son produit rapporte de l'argent, il faut tout de suite le placer au cœur. D'ailleurs, c'est le meilleur indicateur pour dire si ou pas le produit que l'on propose apporte véritablement quelque chose. Je crois qu'il faut avoir une relation très détendue avec l'argent, et de plus en plus, et je pense que les start-upers, et moi le premier, finalement, devraient de plus en plus mettre au cœur ça comme première étape, puisque c'est là le point de départ. Et notamment lorsqu'on crée une équipe, et combien de start-up hein, permettent de fédérer une équipe, et au bout de 6 mois, alors qu'on n'a pas trouvé son modèle, la motivation commence à retomber. Parce qu'on a beau avoir justement notre vision, travailler de manière collective, à un moment donné, si on n'est pas capable de s'appuyer sur des réussites concrètes, la motivation est plus difficile. Je crois que voilà, donc ma plus belle erreur, c'est de ne pas avoir su mettre le business model au cœur de mon travail, peut-être par rapport à un rapport compliqué à l'argent, peut-être parce que je n'avais pas identifié qu'on peut avoir un rapport sain à l'argent et en même temps vouloir avoir un impact positif sur le monde.
Ouais, c'est tout le la difficulté quand on va sur l'humain, c'est que comme on a cette image de l'argent qui s'allie, on se dit on peut pas coupler les deux, être vraiment au service de l'autre et faire de l'argent. Je comprends tout à fait cette problématique que j'ai moi-même traversée.
Exactement.
Ok, deuxième question, accroche-toi. Quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Alors moi personnellement, c'est les méthodes agiles. J'y suis arrivé par le Lean Startup. Mais moi, les méthodes agiles, c'est-à-dire au strict sens informatique, hein, avec tous les canaux qu'on appelle le Scrum, XP, etc. Donc ce sont des vraies méthodes organisationnelles de gestion de projet. Moi, ça m'a donné vraiment une entrée dans l'univers de la performance collective. J'y me suis beaucoup inspiré, j'y ai beaucoup pris. Alors même qu'il y a aujourd'hui des limites à ces méthodes, hein, elles ne sont pas parfaites, mais il me semble qu'elles sous-tendent en tout cas une philosophie qui est incroyablement moderne et qui n'est pas prête d'être dépassée. Donc ouais, les méthodes agiles.
Ouais, parce qu'en plus, ce sont des méthodes qui se remettent en question elles-mêmes. C'est ça
Exactement.
qui est très intéressant, je trouve, dans les méthodes
Exactement.
agiles.
Elle trouve, ouais, c'est ça, au cœur d'elle-même, elle trouve peut-être en fait les solutions à elle-même. Et ça, c'est intéressant.
Ouais. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, je dirais en un mot, la présence. C'est primordial pour moi, la présence. Et paradoxalement, pour moi, il y a deux choses dans la présence. Il y a la vision, être capable de se connecter à une vision et à la transmettre à l'instant présent à l'équipe qui est autour de nous. Et en même temps, la présence, c'est à savoir mettre de côté le mental, le stress, les réflexions, les pensées, pour être à l'écoute de son équipe, mais à l'écoute profonde de son équipe, des membres de son équipe. Savoir quelle est l'énergie du moment, où sont les faiblesses, où sont les points de tension relationnels, savoir identifier justement aussi les signaux faibles, et c'est valable pour le manager au sein de son équipe, mais aussi plus globalement, lorsqu'on va tester son produit, être à enfin, capable d'identifier les signaux faibles, c'est à la fois source de performance relationnelle, mais aussi source de créativité et d'innovation.
Mais je me permets de poser une question là-dessus. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des managers qui sont déjà sensibles ou est-ce que toute personne peut développer ces qualités-là?
Alors moi, je pense que c'est une capacité qu'on peut tous avoir. La présence, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis bien positionné pour en parler, puisque moi, j'ai pendant beaucoup de temps eu du mal à être présent, pris par le mental, les pensées, le stress. J'ai toujours été, voilà, je me suis souvent laissé contrôler par mon mental. Alors qu'en fait, être présent, c'est quelque chose qui se travaille, c'est savoir prendre de la distance par rapport à son mental, à ses pensées, par rapport à ses émotions. Et c'est savoir juste être dans l'instant présent, à l'écoute des personnes qui nous entourent, être à la fois en empathie, sans être cependant en sympathie. Et c'est ça un peu parfois le désavantage des personnes un peu sensibles. C'est aussi le désavantage. Je pense que le bon manager, lui, est dans l'empathie, être dans l'écoute, vraiment dans la présence totale et pleine au présent au sein de son équipe.
Ok, merci beaucoup. Ensuite, j'aurais aimé savoir si il y avait un livre, je parle de façon générale, mais qui est éclairant ou qui a été éclairant pour toi.
Alors moi, j'en ai un particulièrement hein, qui a changé beaucoup de choses pour moi, à la fois de ce que je développe en termes de créativité et d'innovation, mais je pense aussi en matière d'approche managériale. C'est le livre de Steven Johnson, D'où viennent les bonnes idées. Je pense qu'il est très intéressant puisque c'est lui qui m'a, moi en tout cas, ouvert l'univers de la relation dans l'univers de l'innovation, en montrant notamment que en fait, l'innovation, c'est pas tant un sujet d'individu qu'une affaire de relation. D'être humain. Donc voilà, ouais, je pense que c'est un livre très intéressant, très inspirant et éclairant pour moi.
Première fois qu'il est cité, je ne connaissais pas ce livre, donc il sera en lien dans les descriptions du podcast. Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
Bon, alors là, je pense que je vais être moins classique, enfin, moins, comment dire,
Original.
original, plus classique, puisque la citation, moi, vraiment, qui me parle, c'est cette citation là de Johann Wolfgang von Goethe hein, qui disait: quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est une citation importante puisque il y a quelques années, lorsque justement j'ai lancé mon premier grand projet avec cette erreur dont j'ai parlé tout à l'heure sans vraiment savoir finalement ce que j'allais faire parce que j'avais pas vraiment de business model. Au fond de moi, j'avais cette intuition qu'il fallait que je me lance parce que peut-être que j'allais me rater, mais ça allait peut-être le point de départ de tout le reste. Et ça s'est confirmé. Je pense qu'il faut se lancer, avoir de l'audace. Ouais.
Fabuleux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cyril, sur Internet? Tu as un site Internet?
Exactement. Donc, on a notre site odalome.com. Et plus globalement, voilà, je suis présent sur Twitter et LinkedIn.
Bon, pas bah pareil, je mettrai ça dans les commentaires du podcast. Je te remercie, ça a été un vrai plaisir de faire cette émission avec toi. Je trouve ça très riche. J'ai bien noté toutes les sept principes. Et
Écoute, merci à toi.
tu vas d'ailleurs, vous êtes en train d'écrire un livre, donc qui va sortir quand?
Alors, on est en train de le finaliser, mais tu sais, les livres sont une aventure aussi hein, périlleuse, puisqu'on sait ce qu'on écrit, mais est-ce que cela va plaire? Est-ce qu'on va réussir à l'éditer? Donc, en tout cas, on est en train de l'écrire. Dans tous les cas, on cherchera en tout cas à l'éditer de quelque manière que ce soit d'ici la fin de l'année, et qui
Ah, vous n'avez
s'appellera
pas
Innover.
d'éditeur?
On n'a pas encore d'éditeur. On n'a pas
Ah,
encore.
faut que je vous mette en relation avec des éditeurs, j'en
Ah,
connais
là.
plusieurs.
Ah bah alors, allez, avec plaisir, avec plaisir. Écoute, si en tout cas ce podcast aura pu être un départ pour ça aurait été une très belle chose. Et en tout cas, ça s'appellera Innovation Commando au service de l'humanité.
Superbe. Merci beaucoup Cyril. Je te souhaite
Merci
une
à toi.
merveilleuse semaine et puis un bel
Merci.
été.
Merci à toi aussi.
Au
Au revoir.
revoir. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Il y a un lecteur que vous pouvez envoyer à vos collègues, à vos amis, à votre famille sur le site de Moodstep, moodstep.com. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes et SoundCloud pour recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail ou via une application. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir!